Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours, de 15h à 16h, nous répondons à vos interrogations. Nous parlons de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au blanchiment des dents. Depuis quelques années, l'importance d'avoir un beau sourire est de plus en plus forte. Résultat, l'engouement pour les techniques qui permettent de blanchir nos dents est en augmentation. Avec notre invité, le chirurgien Christophe Lecaire, car nous ferons le point sur les différentes méthodes qu'elles se pratiquent à la maison ou au cabinet dentaire pour retrouver un sourire éblouissant. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de sommeil. Il nous donnera quelques astuces simples pour bien récupérer et arriver à passer des nuits les plus paisibles possibles. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, nous allons faire un point sur l'un de nos organes, la thyroïde. Vous avez tous déjà entendu ce mot. Vous savez-vous réellement à quoi sert cette petite glande située à l'avant du cou? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des bruits, des gémissements. Pourquoi les hommes en font-ils en général moins que les femmes lors des rapports sexuels? Elle nous dira ce qu'elle en pense.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Samia, 28 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai régulièrement des crampes. Comment je peux les soulager? Merci pour votre réponse.
Alors Jimmy, Samia, elle dit qu'elle a donc souvent des crampes. Pour démarrer cette émission, donc on parle des crampes. C'est quoi concrètement une crampe? C'est un problème au niveau musculaire, hein, je crois.
Exactement, ce sont des troubles musculosquelettiques qui se manifestent par des contractions musculaires involontaires, soutenues et temporaires. C'est plus ou moins douloureux, mais dans l'immense majorité des cas, c'est bénin. Ça peut survenir au repos, c'est plutôt rare, mais plutôt à l'effort, notamment lorsqu'on produit de l'acide lactique. L'effort est tel qu'il n'y a plus assez d'oxygène qui parvient au niveau du muscle, en quelque sorte tétanisé. Tétanisé, c'est un point important, car les crampes durent que quelques secondes. Lorsqu'elles sont très prolongées, on parle de crise de tétanie.
Ah oui.
Et elles surviennent essentiellement aux membres inférieurs et préférentiellement au niveau des mollets.
D'accord. Alors, pourquoi certains ont des crampes souvent, comme Samia donc, qui nous a posé cette question, et d'autres jamais. Enfin, c'est quoi l'origine finalement?
C'est vrai que l'origine est plutôt compliquée. Elle relève de plusieurs facteurs, qu'ils soient vasculaires avec un trouble de la circulation sanguine ou une vascularisation musculaire insuffisante, ou parfois métabolique avec notamment la sécrétion d'acide lactique au moment de l'effort. Et attention, lorsqu'on est déshydraté, mais une déshydratation assez avancée, on peut avoir ces troubles. Et attention, encore une fois, on peut avoir des troubles notamment au niveau du potassium. Un manque de potassium, une hypokaliémie, donne des troubles musculaires, une hypocalcémie aussi. Et donc certains désordres, notamment de la parathyroïde, peuvent donner ces crampes musculaires. Donc il ne faut pas hésiter à faire un bilan sanguin lorsque celles-ci surviennent au repos.
Vous avez parlé de l'hydratation, c'est peut-être ça le problème de Samia. Donc bon, on n'en sait pas beaucoup sur son cas, mais est-ce qu'il y a d'autres, donc vous parlez d'hydratation, du sport, est-ce qu'il y a d'autres causes, par exemple le tabac, non je crois?
Oui exactement, mais c'est pas tout, il y a aussi, donc on a dit la déshydratation, et la conséquence c'est une hydratation insuffisante, notamment lors de l'effort, une mauvaise préparation à l'effort, un effort qui serait excessif, l'abus de substances comme le café, l'alcool, le tabac effectivement, sont des facteurs de risque potentiels, et puis il y a effectivement des gens qui sont un peu plus à risque d'en faire que les autres, c'est notamment les femmes, les sportifs de haut niveau, donc nous on n'en fait pas partie,
et les personnes âgées. Pour vous, hein, mon perso, ça va. Hein.
Et les personnes âgées qui sont un peu plus concernées.
Alors rapidement, parce qu'il faut qu'on passe quand même à la deuxième question aussi, ça se soigne, ça se traite, ça se soulage?
Non, en dehors de maladies particulières qui donnent justement ces crampes, la maladie de Parkinson, le diabète, il n'y a pas de traitement curateur, il faut prévenir les choses, ne pas hésiter à faire un bilan pour corriger d'éventuels manques comme le calcium ou le potassium, s'hydrater correctement, s'étirer, s'échauffer. Et puis, en règle générale, ça passe tout seul.
Bon, vous, en tout cas, ça ne vous arrive pas souvent avec le peu de sport que vous faites. Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est une jeune maman. C'est Camélia, on l'écoute.
Bonjour docteur, bonjour Mélanie. On vient de sortir de la maternité avec mon bébé. Et le pédiatre nous a dit qu'il avait le frein de la langue court. Pas d'inquiétude selon lui, mais il faudra intervenir plus tard. Moi, ça m'inquiète. Est-ce que c'est fréquent?
Alors Jimmy, on va parler du frein lingual, un petit rappel anatomique, c'est quoi ce frein?
Alors,
au niveau de la langue?
C'est une petite membrane, c'est un ligament qui relie la partie inférieure de la langue à la base de la bouche et qui permet notamment de faire les mouvements. Chez les nouveau-nés, ce frein de langue est plutôt très prononcé et lorsque la croissance avance, la langue prend plus de place et ce frein de langue évolue.
Alors chez ce bébé, donc cette maman qui nous a laissé une petite question, et apparemment il est trop court, le médecin dit que c'est pas grave, qu'on interviendra peut-être plus tard. C'est ce qu'on fait en général, on attend un peu?
Alors la seule indication qui consisterait à couper ce frein de langue, c'est simplement s'il y a une difficulté à l'allaitement. En dehors de cette situation, on laisse le frein de langue tranquille. Si la maman désire allaiter et que l'enfant a du mal à téter, que les seins sont très douloureux, on propose de le couper souvent à la maternité, avant le troisième jour, et ça permet à l'enfant de téter. En revanche, il n'y aura pas de difficulté des apprentissages si le frein de langue n'est pas coupé. Donc pas
de
raison.
Ça va être une crainte des parents, s'il a du mal à parler ou non, il n'y a pas de difficulté.
Et donc, pas d'intérêt à couper ce frein de langue plus tard si celui-ci n'est pas responsable de troubles de l'allaitement. Parfois, dans certaines situations, on peut avoir une mauvaise position de la langue pour la prononciation, mais ça reste assez rare.
D'accord. Et si c'est le cas, par contre, si le bébé il a un problème d'allaitement, il n'arrive pas à se nourrir correctement, si la courbe de poids n'est pas bonne, on fait quoi? On le fait tout de suite. Vous avez dit à la maternité, on peut le faire.
Exactement, ça se fait. Les pédiatres le faisaient énormément avant. Ils ont un petit peu moins le temps.
Maintenant, c'est vrai.
Exactement, on appelle ça la frénotomie. Ça se fait sans anesthésie. On donne juste un petit peu de sucre au bébé pour qu'il n'ait pas mal. On n'a pas besoin de suturer. Il n'y a aucun geste douloureux. Ça cicatrise très, très bien. On met juste un petit dispositif dans la bouche pour bloquer la langue, un petit coup de ciseau, et puis on n'en parle plus. C'est une intervention très bénigne que certains ORL peuvent faire en ville par la suite si à la maternité on n'a pas eu le temps ou que ça n'a pas été dépisté.
Et pour terminer, je vais faire ma savante, puisque vous ne l'avez pas dit, le frein de langue trop court, ça s'appelle l'ankyloglossie. Pour une fois, c'est moi qui sors des mots un petit peu compliqués. Merci Jimmy. Alors si vous aussi, comme Camélia qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous donner des astuces pour avoir un bon sommeil bien réparateur. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le chirurgien-dentiste Christophe Lecard, avec qui nous allons tout vous dire sur le blanchiment des dents. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé-Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le chirurgien-dentiste Christophe Lecard, pour parler de blanchiment des dents, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, en ce début d'année, on prend tous des bonnes résolutions. Moi, c'est de reconnaître un peu plus votre talent, votre génie. Non, je plaisante évidemment, ce n'est pas vrai du tout. Il n'y a pas que ça d'important, de toute façon, on s'en fiche. On néglige souvent son sommeil. Ça, c'est une bonne résolution que beaucoup de personnes abordent en ce début d'année. Et vous allez nous parler de recommandations de la National Sleep Foundation. D'abord, comment on fait pour savoir si on a un trouble du sommeil? Bon, ça paraît un peu évident, mais...
Oui, mais il y a quatre indicateurs simples qui permettent parfois de remettre en cause certaines habitudes. La première, c'est d'aller au lit pour dormir et ne pas s'endormir ailleurs. La deuxième, c'est s'endormir...
Moi, je mange dans mon lit, c'est pas bien.
C'est pas terrible, le lit, c'est fait pour dormir. On ne regarde pas la télé, d'ailleurs, c'est très mauvais pour le couple. La deuxième, c'est de s'endormir en 30 minutes ou moins. Donc, si vous mettez plus, c'est qu'il y a un problème. De ne se réveiller qu'une seule fois par nuit. Au-delà, il y a un problème. Et encore une fois, lorsqu'on se réveille, de ne pas être éveillé plus de 20 minutes. Si vous avez un de ces critères qui n'est pas respecté, eh ben, vous avez un trouble du sommeil. D'accord. En ce qui concerne la durée du sommeil, on estime qu'entre 26 et 64 ans, il faut dormir 7 à 9 heures par nuit. Et qu'au-delà de 65 ans, ce serait 7 à 8 heures, avec évidemment des disparités. On n'est pas tous égaux face au sommeil.
Alors, quels sont les conseils simples pour mieux dormir? Moi, je me suis remise à la danse, par exemple. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça me fait du bien pour dormir le jour où je vais à la danse.
Pratiquer une activité physique ou sportive permet de dormir et d'améliorer sa qualité du sommeil. On peut même pratiquer une activité physique le soir, un temps avant de dormir. Ça n'affectera pas le sommeil. L'idéal aussi, c'est de prendre un bain 1h30 avant le coucher. Ça permet de s'endormir plus rapidement. Le bain chaud permet en effet de stimuler notre système de thermorégulation et de mieux caler notre horloge biologique.
Alors très bien, je note qu'il y a quand même une chose dont moi je suis certaine et qui peut impacter négativement le sommeil, c'est le téléphone avant de dormir, ça c'est sûr.
Les lumières bleues, c'est très néfaste. Ça permet notamment de sécréter une protéine qu'on appelle la mélatopsine, qui supprime sous l'effet de la lumière la mélatonine et qui est responsable de la régulation.
La mélatopsine, j'ai jamais entendu celle-là.
Ça bloque la sécrétion de mélatonine et à ce moment-là, on dort moins bien car on cale moins bien son sommeil. Attention, d'autres perturbateurs comme le bruit, on sait qu'une exposition occasionnelle régulière à des niveaux supérieurs à 55 décibels est associée à un trouble du sommeil. Donc encore une fois, sommeil peut être perturbé par le bruit et la lumière.
Dernier point, les excitants, le café, le thé, tout ça, ça ne doit pas être terrible non plus.
Exactement, thé, café, boisson riche en vitamine C, retardent l'endormissement et favorisent les réveils nocturnes. Si vous prenez un double expresso 3 heures avant de dormir, vous allez décaler votre horloge biologique de 40 minutes. L'alcool, c'est un inducteur du sommeil très fort, mais en fin de compte, sur le long terme, il interfère sur les systèmes de régulation du sommeil et il finit par entraîner des insomnies.
Eh oui.
On a parlé d'excitants. Sachez qu'une sexualité épanouie et une vie de couple heureuse permet d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Je crois que vous dormez très bien, Mélanie. Et une autre étude montre que, justement, les femmes qui dorment moins de 5 heures par nuit sont 30% moins susceptibles d'être sexuellement actives que les femmes du même âge qui dorment 7 à 8 heures. Dormez, C'est bon
merci
pour la santé.
Merci beaucoup Catherine Blanc. Ah non, pardon Catherine Blanc, non, c'est pas vous, c'est Jimmy Mohamed, excusez-moi. Merci pour tous ces conseils. Donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est le docteur Christophe Lecard. Il est chirurgien dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Lecard.
Bonjour.
Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de blanchiment des dents. D'abord, est-ce que ce souci esthétique au niveau des dents, l'importance d'avoir un beau sourire, c'est une tendance qui a toujours existé ou c'est quelque chose d'assez nouveau en France ?
C'est quelque chose qui est apparu depuis au moins une quinzaine d'années en France, qui était beaucoup plus répandu dans les pays anglo-saxons. Et il y a un vrai désir aujourd'hui de la part de nos patients d'avoir un sourire radieux, parce que ça fait partie de l'estime de soi. Et si on a une bonne estime de soi, on a plus confiance en soi. Et ça, c'est vraiment très important dans le relationnel aux autres.
Et ça fait quoi, 10, 15, 20, 10 ans peut-être vraiment que c'est un gros souci. Enfin, c'est un souci en
tout cas. Ça fait 10 ou 15 ans environ qu'il y a une vraie demande dans nos cabinets d'avoir un éclaircissement dentaire, d'avoir un sourire plus rayonnant.
Parce qu'aux États-Unis, c'est vrai, hein, ça fait hyper longtemps. Moi, j'ai l'impression, j'ai souvenir notamment de séries américaines que je regardais quand j'étais petite, où ils avaient déjà les acteurs dans les années 80, 90, des sourires ultra bright, ultra blanc là. Mais c'était il y a longtemps, eux, ils ont démarré bien avant nous. Hein.
Les Américains ont démarré bien avant nous les éclaircissements dentaires. Et au-delà des éclaircissements dentaires, il y avait aussi beaucoup de prothèses très blanches qui étaient réalisées aux États-Unis.
Trop blanc même. Hein.
De manière globale, aux États-Unis, il y a un vrai désir d'avoir des dents très très blanches. Et les prothèses réalisées en céramique sont aussi beaucoup plus blanches que celles que l'on pratique en Europe.
Et c'est du blanc plus blanc que blanc. Hein.
Oui, on est plutôt proche d'une couleur lavabo, et ce qui ne correspond pas à une teinte naturelle.
Très bien,
c'est vrai que couleur lavabo, c'est moins joli, mais ça parle très bien. Quel est votre patient type qui vient pour le blanchiment dentaire ? Plutôt des hommes, des femmes, des sujets plutôt jeunes ?
Globalement, c'est plutôt des femmes, et des femmes d'environ 40 ans qui veulent redonner un petit peu peps, donc retrouver donc, ce sourire rayonnant et... Le fait d'avoir aussi des dents plus blanches donc, amène à sourire et donc on se sent mieux dans sa peau.
Et ça aide à trouver du travail, ça aide à se sentir bien, à trouver un amoureux éventuellement. Ça a plein d'aspects finalement positifs, ça amène plein d'aspects positifs.
Ça a plein d'aspects positifs. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis sur les beaux et les laids. Et donc on s'est rendu compte que en primaire, les beaux étaient sur les premières places, les gens qui étaient un peu moins jolis étaient dans les dernières places. Au niveau des examens à l'université, on s'est rendu compte aussi qu'au niveau des oraux, les personnes qui avaient un joli sourire, ils avaient environ 7% de plus au niveau des notes. Et ceux qui avaient un sourire un peu moins beau, environ 15% de moins bonnes notes par rapport à la moyenne.
Ouais, c'est même un truc de discrimination finalement, les dents.
Il y a une vraie
discrimination.
Et dans le monde du travail, ça peut se retrouver aussi avec les photos que l'on peut avoir sur les CV. C'est pour ça que le CV anonyme a aussi un intérêt.
Et on ne fait pas d'accord par contre de blanchiment chez les enfants. Hein. C'est quelque chose qui est consacré aux adultes. Hein.
Le blanchiment ne se fait pas chez les enfants de moins de 18 ans, donc jusqu'à la majorité, et ni chez les femmes enceintes.
Docteur Lecard, on ne fait que commencer cet entretien. Bien sûr, vous restez avec nous. Dans un instant, on passe à la pratique. D'abord, on verra qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nos dents prennent une mauvaise coloration. Et justement, la cause détermine le traitement. On vous dira tout.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le chirurgien-dentiste Christophe Lecard, avec qui on fait le point aujourd'hui sur le blanchiment des dents. Alors docteur, je crois qu'avant de parler des techniques de blanchiment, il faut expliquer à nos auditeurs que les dents, si elles ne sont pas blanches, si elles sont colorées, jaunes par exemple, il peut y avoir en fait deux types de coloration, quand la coloration est interne et externe, hein, c'est ça ?
On a deux types de coloration au niveau des dents. Les colorations externes qui sont liées à nos habitudes de vie, ce sont les dépôts qui se font sur la surface de la dent liées à la consommation de thé, de café, de produits tanniques. Et la coloration interne de la dent, qui est la couleur propre de la dent. Et celle-ci, elle est variable d'un individu à un autre. Et ça dépend aussi de la génétique. Alors, les personnes de couleur noire ont des dents qui sont un petit peu plus jaunes. Les Asiatiques ont des dents qui sont plutôt dans des teintes rosées. Et nous, on est plutôt sur un jaune grisé pour le type européen.
D'accord.
Et
après, il y a des familles de dents, de gens qui ont les dents un peu plus jaunes, j'imagine, c'est ça ?
Il y a des personnes qui ont des dents plus ou moins jaunes. Quand on vieillit, on va avoir les dents qui vont jaunir un petit peu plus. elles deviennent un petit peu plus jaunes parce que l'épaisseur d'émail, cette coque externe, a tendance à diminuer. Et donc, on voit le tissu qui se trouve en dessous, qui s'appelle la dentine ou l'ivoire, qui est beaucoup plus jaune. Et en vieillissant, cette dentine, elle a tendance à se scléroser et à devenir de plus en plus jaune-brune.
Et donc, là, il y a une coloration, qu'elle soit externe ou interne, c'est l'émail qui est touché. Cet émail, on est d'accord, il ne repousse jamais, en fait.
L'émail ne repousse jamais, mais le système pour agir sur la coloration interne va agir sur la couleur propre de la dentine.
D'accord. Jimmy ?
Et donc, vous avez dit qu'il y a des terrains, finalement, héréditaires, familiaux ou génétiques qui expliquent qu'on a une coloration de dents différente. Mais est-ce que des médicaments peuvent aussi influencer la coloration des dents ?
Alors, il y a certains médicaments qui influencent la coloration des dents, en particulier une famille d'antibiotiques qui s'appelle la tétracycline. Les tétracyclines sont toujours aujourd'hui prescrites, mais plus chez la femme enceinte et chez les jeunes enfants. Les tétracyclines ont entraîné des colorations en strates, des colorations qui étaient grisées, et ce sont des colorations qui sont très dures à traiter, même avec les traitements d'éclaircissement au cabinet.
Alors, on va parler des colorations externes, maintenant celles qui sont causées par nos habitudes de vie, le tabac, le café, le thé, c'est ça. Le brossage aussi, je crois que c'est un mauvais brossage, c'est aussi une raison de coloration, parce qu'on n'utilise pas la bonne brosse à dents, par exemple, c'est ça ?
Alors, si on n'utilise pas la brosse à dents, on ne va pas éliminer correctement la plaque dentaire qui, ensuite, va se transformer en tartre. Et le tartre est de couleur jaune-orangé. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des dents qui sont colorées jaune-orangé. Et les habitudes de vie vont entraîner des dépôts sur la surface des dents. Et ces colorations de surface, ces colorations externes, elles peuvent être éliminées très facilement en réalisant un détartrage avec un polissage dans un cabinet dentaire.
Et la brosse à dents, je crois que ça a son importance aussi. La brosse électrique, c'est mieux pour éviter les colorations, hein ?
La brosse à dents électrique, elle est plus intéressante par rapport à la brosse à dents manuelle parce qu'elle va permettre de mieux gommer ces colorations qui se déposent sur la surface de la dent.
Jimmy ?
Et que penser des dentifrices, puisque souvent on a des dentifrices dans les supermarchés qui nous expliquent que ceux-là sont spécial blancheurs. Est-ce qu'on peut se fier à ce genre d'accroche marketing ?
Alors, ces dentifrices blancheurs ne vont pas agir sur la couleur propre de la dent, mais simplement sur les colorations externes. Ça va gommer un peu mieux ces colorations. Donc, la plupart des dentifrices blancheurs contiennent du bicarbonate micropulvérisé pour ne pas abraser la surface de l'émail. Donc, ça va éliminer une partie de ces colorations et diminuer leur installation. Mais il y a aussi des dentifrices qui vont colorer la gencive un petit peu plus en rouge, donc augmenter le contraste entre les dents.
On le connaît tous, celui-là, on ne va pas citer la marque, mais ça marche le rouge, là ?
Eh bien, ça augmente ce contraste entre les dents et la gencive et donc donne une impression de dents plus blanches. Et puis, est apparu depuis 2 ans environ sur le marché un dentifrice assez particulier qui va déposer une fine couche de silicone sur la surface des dents.
Et on cette trouve ça fiche, en supermarché ?
Oui, cette fine couche, elle est légèrement bleutée, ça ne se voit pas à l'œil nu, et simplement par la réflexion de la lumière au travers de cette fine couche, eh bien, on va avoir de manière instantanée des dents qui vont apparaître plus blanches.
Mais là, c'est l'arnaque.
Alors bien sûr, l'effet...
c'est pas blanc, c'est juste bleu, en fait, et c'est avec la lumière.
Non, on a vraiment une sensation de dents beaucoup plus blanches, mais bien sûr, cet effet, il est temporaire, puisqu'il disparaît entre deux brossages.
D'accord, mais vous déconseillez quand même ces dentifrices.
Oui, c'est un dentifrice qui n'est pas déconseillé, il a un intérêt, parce que effectivement, on a un sourire plus éclatant de manière instantanée.
Qu'est-ce qu'on doit penser des dentifrices faits maison ? Parce que c'est à la mode maintenant, le homemade, c'est dangereux, c'est bon, c'est pas
alors,
bon.
Alors les dentifrices faits maison, moi je ne les conseille pas parce que la plupart du temps, et si on utilise un dentifrice par exemple avec du bicarbonate, je parlais du bicarbonate tout à l'heure qu'on retrouvait dans les dentifrices blancheurs, mais la différence par rapport aux dentifrices fabrication maison, la poudre de bicarbonate dans ces cas-là a des grains qui sont beaucoup plus gros et donc va avoir un effet abrasif, donc va éliminer une partie de la couche d'émail et cet émail ne repousse pas. Alors que dans les dentifrices blancheurs, comme ce sont des grains très fins, on va avoir uniquement un effet polissant.
Alors quand c'est trop de café, trop de thé qui colore les dents, on va pas vous conseiller peut-être, il y a de la prévention à faire auprès des gens, mais est-ce qu'il y a des astuces, parce qu'on va pas dire aux gens forcément s'ils adorent ça, ils en ont besoin, d'arrêter totalement le café et le thé, est-ce qu'il y a des moyens de le consommer sans que ça tâche trop ?
Bien sûr, il faut continuer à consommer du thé et du café, mais le truc, c'est après avoir bu son café ou son thé, eh bien de se rincer la bouche, simplement boire un verre d'eau. C'est très simple, quand vous buvez votre thé, votre tasse, si vous ne la rincez pas tout de suite, eh bien il va falloir frotter pour éliminer les tanins qui sont au fond de votre tasse.
Vous voyez la couleur de ma tasse à
thé. C'est exactement la même chose sur la surface des dents. Si vous vous rincez la bouche de manière immédiate, eh bien les tanins vont pouvoir s'éliminer facilement. Si vous attendez un peu plus longtemps, eh bien il va falloir frotter pour éliminer cet anin.
Le jus de citron, rapidement, pour avoir les effets de dents plus blanches.
Le jus de citron a déconseillé de manière formelle. Il va donner une impression de dents blanches de manière immédiate parce qu'il va déminéraliser l'émail qui va avoir un aspect crayeux, mais on va abîmer cet émail, donc vraiment à proscrire à 100% le jus de citron.
Docteur Lecar, on va continuer cette discussion dans quelques minutes. On reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on passe évidemment aux techniques de blanchiment des dents. Vous verrez que certaines peuvent se pratiquer chez soi avec certaines précautions et chez le dentiste aussi. Comment ça se déroule, combien ça coûte aussi évidemment, on vous expliquera tout. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le chirurgien dentiste Christophe Lecar. Alors, il est aussi membre de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire. Docteur Lecar, passons aux techniques de blanchiment à présent qu'on peut proposer aux patients. On va en parler, mais je crois, comme vous disiez tout à l'heure, le tartre, c'est une raison de coloration. Est-ce que, du coup, un bon détartrage, déjà, ça permet de récupérer une coloration meilleure, plus blanche ?
Effectuer un détartrage va permettre d'éliminer les colorations qui sont sur la surface de la dent et tout de suite, on va déjà retrouver un sourire qui va paraître beaucoup plus blanc.
Effectivement, donc ça vaut le coup déjà d'en faire un tous les ans ou tous les 6 mois, hein, c'est ça ?
Tous les ans, un détartrage et quand il y a beaucoup de tartre parce que le brossage n'est pas parfaitement exécuté, tous les 6 mois, il n'y a aucun problème de réaliser un détartrage semestriel.
Alors ensuite, on va passer au blanchiment, évidemment. En préparant cette émission, j'ai appris qu'on pouvait bénéficier de techniques qu'on fait chez soi, c'est même ce qu'on utilise le plus aujourd'hui, en ambulatoire. Expliquez-nous en quoi ça consiste, alors ce blanchiment à la maison, en quelque sorte, mais on a besoin de vous quand même, les dentistes, expliquez-nous.
Eh bien, avant de réaliser un blanchiment, quelle que soit la technique que l'on va utiliser, il faut obligatoirement faire une visite de contrôle chez son chirurgien dentiste. Parce qu'on ne peut pas envisager de faire un éclaircissement dentaire si on a des caries ou si on a une maladie gingivale. Parce que si on a des caries, eh bien, même avec des concentrations de produits actifs pour faire cet éclaircissement, eh bien, ce produit va pénétrer profondément à l'intérieur de la dent et on risque d'avoir une mortification de la dent. Donc, pour réaliser un éclaircissement, il ne faut pas avoir de caries. Il ne faut pas avoir non plus de maladie gingivale, avoir une gingivite ou un déchaussement dentaire.
Pourquoi ?
Parce que les produits qui vont agir sur la dent pour l'éclaircir vont entretenir sinon cette inflammation au niveau de la gencive. Donc il faut avoir une bouche saine pour envisager un éclaircissement dentaire.
Jimmy.
Et comment ça se passe ensuite chez le dentiste ? On commence par faire des gouttières sur mesure, c'est ça ?
Alors des gouttières sur mesure vont être réalisées. On va faire une empreinte de la bouche de son patient. Le prothésiste va réaliser ces gouttières et dans ces gouttières, on va appliquer le produit actif qui va permettre d'oxyder les pigments colorés de la dent. Ce produit actif, c'est du peroxyde d'hydrogène ou peroxyde de carbamide. Le peroxyde de carbamide se transformant en peroxyde d'hydrogène.
C'est de l'eau oxygénée, c'est ça ?
C'est de l'eau oxygénée avec une concentration particulière qui va donc permettre d'éclaircir les dents.
D'accord. Et donc, après, vous faites quoi, du coup ?
Donc, la technique la plus employée aujourd'hui, c'est la technique ambulatoire, c'est-à-dire la technique à la maison. Le patient va repartir avec ses gouttières et avec ses seringues qui contiennent ce peroxyde d'hydrogène. Il va se brosser les dents, appliquer une goutte de peroxyde d'hydrogène à l'intérieur de sa gouttière, placer sa gouttière en bouche et il devra porter pendant environ 3 heures par jour cette gouttière sur une durée moyenne de 15 jours. On peut prolonger parfois le traitement. Alors, quand porter cette gouttière ? Eh bien, on peut le faire à n'importe quel moment de la journée, mais il est plutôt conseillé de la porter la nuit parce que pendant la période nocturne, on fabrique moins de salive, donc on va moins déglutir et donc il y aura moins d'effet de pompage, d'aspiration du produit qui se trouve à l'intérieur des gouttières. Donc c'est vraiment intéressant de les porter la nuit.
Mais vous disiez 3 heures par jour, si on les porte du coup la nuit, moi je dors un peu plus que 3 heures, 8 heures, ça ne va pas genre me les rendre plus blanches que blanches, voire transparentes, enfin, ce n'est pas dangereux, je veux dire ?
Non, il n'y a aucun problème de... Ce n'est pas durée dépendante. Si ça dure plus longtemps, il n'y aura pas d'effet nocif sur la surface des dents.
Jimmy. Et c'est un traitement qui est sans risque, pas d'effet secondaire potentiel ?
Alors, il peut y avoir un effet secondaire à l'éclaircissement dentaire. Ce sont les sensibilités au froid et au chaud des dents. C'est totalement variable d'un individu à un autre. Donc, pour traiter ces sensibilités au froid, eh bien, il suffit d'utiliser le plus souvent un dentifrice pour dents sensibles. Et si, au cours du traitement, vous avez une sensibilité qui est vraiment exacerbée, bien, vous pouvez arrêter pendant 2-3 jours votre traitement ambulatoire, le reprendre ensuite. Et puis, une petite technique, dans cette gouttière dans laquelle vous mettez votre produit d'éclaircissement, Une fois que vous avez enlevé votre gouttière, que vous l'avez rincée, vous pouvez appliquer ce dentifrice pour dents sensibles et reporter pendant 5-10 minutes maximum cette gouttière contenant ce dentifrice pour dents sensibles et ça va diminuer de manière considérable ses sensibilités au chaud et au froid.
Quand on fait ce traitement chez soi, donc c'est une quinzaine de jours, vous avez dit 3 semaines,
une quinzaine de jours.
On porte ces gouttières la nuit, admettons. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Je ne sais pas, des choses qu'on n'a pas le droit de boire, de manger pendant cette période où on fait ce petit éclaircissement à la maison?
Pendant cette période, il va falloir essayer de limiter la consommation de café, de thé, de tabac, enfin tout ce qui est susceptible de tacher les dents. Quelque chose aussi d'important que j'ai oublié de vous préciser, les produits d'éclaircissement ne sont actifs que sur la dent naturelle. Ils ne vont pas agir par exemple sur les couronnes en céramique et ne vont pas agir non plus sur les reconstitutions de dents qui
les
sont faites avec
par exemple,
les
ouais.
résines composites. Ça ne fonctionne que sur la dent naturelle. En conséquence, si dans votre bouche, vous avez par exemple une incisive recouverte par une couronne en céramique, eh bien, si vous allez faire votre éclaircissement, cette céramique, il faudra la refaire après l'éclaircissement parce que le produit actif n'agit pas sur les céramiques et sur les composites.
Oui, c'est bon à savoir quand même ça. Jimmy ?
Et quel est le niveau de satisfaction des patients ? Il est bon ?
Globalement, le niveau de satisfaction est excellent parce que les patients retrouvent un sourire éclatant, se remettent à sourire. Alors, c'est assez drôle parce que ils nous disent je n'ai pas dit donc à ma famille que j'avais fait un éclaircissement, mais tout le monde me dit ah, tu as l'air bien en ce moment, bien dans ta peau, tu es en forme, tu souris. Et parce que la personne a plus confiance en soi, se sent mieux, sourit, est plus avenante. Et donc, le relationnel avec les autres est meilleur.
Alors, combien ça coûte quand même ces gouttières qu'on doit faire à la maison 15 jours? Est-ce que pendant le traitement, on revient vous voir de temps en temps ou pas du tout? Enfin, c'est quoi le prix total?
Ce prix est variable d'un cabinet à un autre. En moyenne, il faut compter entre 500 et 1000 euros en fonction de la localisation de son cabinet.
C'est ça, j'allais dire, c'est une grosse variation, 500 000 euros. Ça dépend si c'est à Paris ou en province, quoi, en gros. Hein, c'est un peu
la
ça.
Différence se fait effectivement entre Paris et la province parce que les coûts de fonctionnement des cabinets sont différents sur Paris par rapport à la province.
Et ce n'est pas pris en charge, on est d'accord?
Il n'y a aucune prise en charge de la part de l'assurance maladie. De manière très exceptionnelle, certaines mutuelles, mais ça reste vraiment très exceptionnel.
Alors, il y a aussi la technique qu'on appelle au fauteuil, finalement. Bon, c'est le même produit. Je crois qu'on en fait quand même beaucoup moins aujourd'hui. Mais au fauteuil, quand on vient le faire chez le dentiste, ce blanchiment, ça se passe comment? C'est le même produit, hein, c'est ça, par contre?
Alors, on utilise exactement le même produit, mais la concentration, elle est différente. La concentration en peroxyde d'hydrogène pour la technique ambulatoire, elle est de maximum 6% de peroxyde d'hydrogène présent ou rejeté. C'est d'ailleurs important à savoir par rapport aux produits que l'on peut trouver en pharmacie ou parapharmacie ou dans les bars à sourire où la législation impose une concentration maximum de 0,1% de peroxyde d'hydrogène.
Ah,
donc vous imaginez bien que entre
0,1%
et 6%, on ne peut pas obtenir le même résultat. Pour les techniques faites au fauteuil, généralement en une heure donc au fauteuil, on utilise des concentrations qui sont très élevées, à 30-35% de peroxyde.
Comment ça se passe la séance? Vous nous mettez sur le fauteuil, vous faites quoi dans ma bouche?
On place pour protéger la gencive de nos patients ce qu'on appelle une digue chimique. En réalité, c'est une barrière pour éviter que le produit d'éclaircissement vienne en contact avec la gencive. Et ensuite, on applique ce produit hautement concentré sur la surface des dents. Et au bout d'une heure, on va avoir des dents qui vont être beaucoup plus claires. On privilégie aujourd'hui la technique plutôt ambulatoire par rapport à la technique au fauteuil parce qu'on s'est rendu compte que la durabilité de l'éclaircissement était supérieure avec la technique ambulatoire qui est plus longue dans le temps pour la réalisation mais qui a un effet plus durable dans le temps.
Et d'ailleurs, c'est des techniques, que ce soit au fauteuil ou en ambulatoire, qu'on peut répéter dans le temps. Est-ce qu'on peut refaire un blanchiment dentaire un an après, deux ans, ou il faut respecter un intervalle entre deux interventions?
Pour la technique ambulatoire, il nous arrive au bout d'un an de faire une petite piqûre de rappel. On ne repart pas sur 15 jours de traitement, mais on fait 2-3 jours pour rééclaircir un tout petit peu les dents. Généralement, on peut réintervenir 3 ou 4 ans après. Attention à ne pas renouveler de manière trop répétitive.
Il ne faut pas devenir accro au blanchiment non plus. Quoi,
voilà, parce qu'il existe effectivement ce bleaching addict, qui est ce terme anglo-saxon, des gens qui sont devenus addictifs au blanchiment. Et donc, de répéter de manière trop rapprochée, avec des concentrations qui sont très élevées de produits qu'on peut trouver un peu sur Internet, eh bien, on peut endommager malgré tout l'émail.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça risque quoi au pire?
eh bien, on va éliminer donc cet émail, et cet émail ne va pas repousser, comme je vous l'expliquais, et puis on risque d'avoir des sensibilités extrêmes au chaud et au froid.
Du coup, pas de blanchiment dentaire avec des produits qu'on peut importer ou trouver sur Internet. On ne fait pas d'achat en ligne, on fait le blanchiment dentaire chez son dentiste.
Le blanchiment dentaire, il doit être effectué chez son dentiste. C'est vraiment important. On ne réalise pas d'éclaircissement dentaire avant d'avoir consulté. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait de caries, il ne faut pas qu'il y ait de maladies gingivales. Et puis, de manière logique, il faut, avant d'avoir fait un éclaircissement dentaire, avant de vouloir changer la couleur propre de sa dent, éliminer toutes les colorations qui sont sur la surface de la dent par un détartrage. C'est de la même manière que quand vous peignez un mur, vous n'allez jamais peindre un mur sale.
Ah bah
donc il faut d'abord nettoyer.
Il n'est pas très bricoleur. Mais...
voilà, il faut nettoyer avant d'envisager d'éclaircir.
Combien coûte le blanchiment au fauteuil ? C'est le même prix que les gouttières ou pas tout à fait ?
On est dans le même tarif à peu près que les gouttières.
Donc entre 500 et 1000 euros, ça doit fonctionner la localisation du cabinet.
Alors il existe aussi un blanchiment particulier qui est le blanchiment interne. C'est pour des dents qui ont été dévitalisées et ces dents dévitalisées sont devenues un petit peu plus grises. Eh bien, on peut agir de manière ponctuelle uniquement sur ses dents. Et donc, à l'intérieur de la dent, on va venir appliquer un produit d'éclaircissement. Et ça, c'est vraiment une technique qui se fait 100% au fauteuil. On répète 2 à 3 fois l'application de ce produit à l'intérieur de la dent. Et ce qui va permettre, sur une dent unitaire, sur une seule dent qui est devenue plus grise du fait de la dévitalisation, de retrouver la même teinte que les dents qui sont de part et d'autre.
Alors parfois, vous m'aviez dit en préparant l'émission qu'il y a des échecs, il y a des gens chez qui ça ne marche pas très bien, le résultat n'est pas au rendez-vous, mais il y a encore des solutions, en fait il y a des solutions pour tout le monde. Et vous m'avez parlé d'une technique qui s'appelle la micro-abrasion, c'est quoi ?
Sur des blanchiments qui ne réussissent pas bien, en particulier sur les colorations liées à la famille d'antibiotiques, au tétracycline, eh bien on peut appliquer la micro-abrasion avec un éclaircissement. On va éliminer une partie de la couche d'émail, cette couche d'émail qui est striée, en particulier liée au tétracycline, et on va ensuite réaliser l'éclaircissement. Le problème de ces colorations au tétracycline, c'est qu'elles sont en strates et tout va devenir plus clair. On va toujours conserver ces strates avec des différences de teintes, mais tout va devenir plus clair.
Jimmy ?
Et puis sinon, il reste ce qu'on appelle les facettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Et je crois que ça coûte un peu plus cher en revanche.
Quand il y a un échec ou avant qu'il y ait un échec, quand on sait qu'on ne va pas pouvoir, avec les techniques dont nous disposons pour faire l'éclaircissement, on peut réaliser des facettes en céramique. Ces facettes en céramique sont des fines couches de céramique qui sont appliquées sur la surface des dents, comme des faux ongles. On va légèrement dépolir la surface des dents et on va venir coller cette facette en céramique qui va permettre de retrouver la forme désirée et la couleur désirée de la dent.
Et ça coûte combien ? Il disait 10 000 un peu cher, je sais pas.
Les facettes, les tarifs sont variables entre 600 et 1 000 euros par dent.
Par dent, ah oui, parce que je veux dire, bon, ça va, 600 000 euros, non, mais c'est par dent quand même. Ouais.
C'est par dent.
Et on traite l'ensemble des dents, en fait, les 20-30 dents.
Et quand on réalise des facettes, les facettes, généralement, sont réalisées de canine à canine, parce qu'on va essayer de retrouver une harmonie du sourire et une harmonie en termes de couleur.
Donc, une dizaine de dents,
alors,
en fait.
Alors, de canine à canine, là, je suis en train d'essayer de compter mes dents.
Là, ça fait...
oui, incisive et...
les facettes sont principalement réalisées sur les dents de la mâchoire supérieure. Mmh. Et donc, de canine à canine, ça fait 6 dents pour la mâchoire supérieure.
On fait pas en dessous. Bon. Merci beaucoup, docteur Lecart, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur le blanchiment des dents. On a vu qu'il y a des solutions pour tous les cas. On peut tous retrouver un sourire éclatant, même si ça coûte un peu d'argent. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Vous allez voir, on va faire un point sur l'un de nos organes, plutôt une glande, c'est la thyroïde. Vous avez déjà entendu ce mot, vous savez par contre réellement à quoi ça sert. Eh bien, on va vous expliquer à quoi sert cette petite glande au niveau du cou. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence « Les mots du quotidien ». Aujourd'hui, on parle de la thyroïde. Savez-vous précisément à quoi sert cette glande qu'on a tous à la base du cou ? Comment fonctionne-t-elle grâce à notre cerveau ? Et pourquoi elle se met parfois à travailler moins ou à travailler trop ? Justement, notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
C'est au niveau de la gorge.
Je ne sais pas si c'est au niveau de la glotte.
Une sorte de glande.
C'est un truc avec les cordes vocales qui se déclenche avec le temps.
Ça correspond pour la glycémie.
La thyroïde, je crois, c'était sur un scandale sanitaire au niveau des médicaments. Je ne m'en rappelle plus l'entreprise, ni le groupe pharmaceutique, mais c'était à ce niveau-là. Ouais.
Bah, ça sert à plein de choses, en fait, au niveau de chauffement du corps, que ce soit la fatigue, les sauts d'humeur, les malaises. J'ai appris récemment qu'effectivement, ouais, les problèmes de thyroïde, ça peut être complexe.
Bah, y a l'hyperthyroïdie, il y en a qui grossissent et il y en a qui maigrissent.
Si ça fonctionne très mal, on peut avoir très chaud, on peut avoir très froid.
Et donc, il y a des traitements prévus pour ces deux cas.
Pour moi, c'est dès lors qu'il y a un surmenage émotionnel, surmenage physique, un choc.
Bah oui, je pense que ça touche hommes et femmes au niveau de la thyroïde.
Par contre, c'est vrai, on entend plus parler des femmes qui ont des problèmes de thyroïde.
Bon, on va voir, Jimmy, si ça touche plus les femmes, vous allez nous en dire un mot tout à l'heure. Mais d'abord, un petit mot de physiologie, Jimmy, je dirais. Pour démarrer, la thyroïde, c'est quoi ?
Alors, vous l'avez dit, elle est située à l'avant du cou. C'est une petite glande qui est contrôlée par l'hypophyse. Elle est responsable d'une sécrétion d'hormones. C'est une glande endocrine. Et on peut la palper lorsque celle-ci est trop grosse. Une thyroïde de taille normale n'est pas palpable. Et parfois, le médecin généraliste, lorsqu'il pense que vous avez une pathologie thyroïdienne, vous demande de déglutir. Il se met derrière vous. Et avec ses deux mains et ses deux doigts, il vous demande de déglutir pour voir si celle-ci remonte et qu'on peut sentir à ce moment-là. Donc une thyroïde de taille normale n'est pas palpée. Elle est constituée de deux lobes qui sont eux-mêmes séparés par un isthme central et son rôle est fondamental. Elle fabrique des hormones, comme je vous l'ai dit, qui ont un rôle important au niveau de l'organisme, le cœur, les yeux, les muscles, le cerveau et même le système digestif.
Très bien. Alors peut-être un mot quand même, Jimmy, sur ces hormones thyroïdiennes.
Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est sous le contrôle du cerveau, l'hypophyse, qui va sécréter ce qu'on appelle la TSH et qui, en contrôle, va fabriquer une hormone qu'on appelle la T3, la triiodothyronine.
Je savais que vous n'alliez pas y arriver.
Ah oui, exactement. Parce que nous, les médecins, on dit souvent
c'est
T3
compliqué.
Ou T4.
Je peux essayer de le dire. Alors,
allez-y.
Triiodothyronine.
Exactement, la T3. Et puis, il y a la T4, qu'on appelle la tétraiodothyronine. Thyronine, celle-ci c'est l'hormone...
Ou la thyroxine aussi.
Exactement, la thyroxine, c'est l'hormone de réserve qui est produite en plus grande quantité que la T3. Et à tout moment, les hormones thyroïdiennes peuvent être équilibrées en passant de la T3 à la T4 et inversement. Ces hormones, elles jouent un rôle crucial tout au long de la vie et même au niveau du développement du fœtus. Elles participent au bon développement du cerveau notamment.
Alors, je crois que pour cette thyroïde, elle fonctionne correctement. Il y a un élément central qui est l'iode. Hein, expliquez-nous.
Exactement, l'iode, c'est un élément indispensable à la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc, c'est un oligo-élément comme le fer, le magnésium. Il est présent en très faible quantité dans le corps, mais son rôle est indispensable et il est fourni par l'alimentation, notamment avec le sel iodé de cuisine, le poisson, les fruits de mer. Une alimentation équilibrée permet un bon apport en iode, pas besoin de supplémentation pour que la thyroïde fonctionne normalement.
Juste rapidement, vous avez dit qu'elle avait un rôle sur presque toutes les fonctions de l'organisme, la thyroïde, mais est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu ?
Exactement, il faut la voir comme une forme de thermostat. Une thyroïde qui marche trop vite ou trop lentement permettra d'avoir des organes qui sont déréglés. Elle permet de réguler la dépense énergétique de l'organisme. Elle va stimuler plein de choses. Le cœur, le cerveau, c'est un peu, comme j'ai dit, un thermostat, une centrale nucléaire. Donc finalement, elle peut réguler le poids, la masse musculaire, la solidité de l'os. Elle joue aussi sur l'humeur,
ouais,
le système nerveux central.
C'est vrai que les personnes de thyroïde, ils ont parfois des sautes d'humeur.
Exactement. Le cholestérol, la glycémie, elle régule, une auditrice l'a dit, la température. On peut avoir chaud ou froid. Elle permet aussi d'accélérer ou ralentir le rythme cardiaque. Elle régule aussi le tube digestif, le système intestinal, bref. Une centrale nucléaire dont on a besoin.
Il nous reste très peu de temps, Jimmy. Quand tout marche bien, tout va bien, mais parfois elle se dérègle. Alors on fera une émission là-dessus aussi, parce que c'est passionnant, il y a plein de choses à dire, mais en gros, il peut y avoir deux dérèglements possibles rapidement, c'est quoi ?
Hypothyroïdie, une thyroïde qui marche trop lentement, on prend du poids, on est ralenti, on est constipé. Une hyperthyroïdie, au contraire, on mange beaucoup, on maigrit, on est énervé, on a la diarrhée. Un dosage de la TSH permet de faire la différence entre les deux, et le traitement, en règle générale, permet un bon équilibre de ces thyroïdes sur le temps.
Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, la fameuse chronique sexo. Aujourd'hui, notre sexologue Catherine Blanc, avec elle, il sera question des bruits, des gémissements. Pourquoi les hommes en font-ils en général moins que les femmes lors des rapports sexuels? Elle nous dira ce qu'elle en pense.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Il raterait cette chronique pour rien au monde et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine, elle est là, Jimmy est contente. Catherine qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Alors bonjour Catherine.
Elle n'en fait pas des caisses. Non. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Allez, on aborde la question du jour. Alors aujourd'hui, on a une question d'Ophélie, 38 ans. Je vous la lis. Mon mec ne s'exprime pas au lit, il ne fait aucun bruit, même quand il a joui. Est-ce que c'est normal, Catherine, de trouver ça intriguant? Alors Catherine, les hommes silencieux au lit, c'est-à-dire là apparemment complètement silencieux, c'est fréquent ou pas?
Oui, c'est très fréquent. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne jouissent pas. Mais effectivement, il y a beaucoup de pudeur chez l'homme à exprimer ses émotions, à exprimer des sons, avec une idée que c'est féminin et hystérique, donc au sens négatif du terme. Donc, pas participer de cette mise en scène de lâcher un peu bestial, tant attendu chez les femmes, un peu avec un certain mépris de ce...
Un peu comme au tennis, alors.
C'est ça.
Elles font plus de bruit, les femmes, en général, sur les cours de tennis.
Oui, elles sont libres. Alors qu'en réalité, faire du bruit, ce n'est pas pour faire du bruit, c'est laisser advenir le corps. C'est-à-dire qu'au moment où il y a du plaisir, alors après, ça peut mettre en question son plaisir. Peut-être n'en a-t-il tout simplement pas.
Hein. Mais ça ne veut pas dire un homme qui ne fait pas de bruit qu'il n'a pas de plaisir, on est d'accord.
Non, mais d'ailleurs vous avez peut-être fait aussi l'expérience d'avoir du plaisir et de ne pas faire de bruit non plus. Parce qu'à côté, il y a vos enfants ou vos parents. Et pour autant, c'est très excitant, mais vous allez faire en sorte que de ne pas l'exprimer et de le garder pour vous. Alors certes, vous le gardez pour vous, c'est peut-être un peu frustrant pour l'homme avec qui vous faites l'amour, mais le fait est que c'est tout à fait possible. Simplement, ça réduit aussi, c'est très excitant, mais ça réduit la puissance du plaisir.
Il ne fait pas de bruit, mais il est là, Jimmy.
Alors, merci pour cette introduction tout à fait pertinente, mais est-ce que... Alors, on sait qu'une femme qui ne crie pas au lit pourrait inquiéter un homme. Est-ce qu'inversement, l'homme qui ne crie pas au lit pourrait inquiéter une femme ou finalement... La femme fait avec, elle se rend bien compte que l'homme a du plaisir ou c'est aussi quelque chose, ça peut être une source d'angoisse pour la femme?
Non, ça peut être une source d'angoisse pour la femme. Après, le fait qu'il y ait du sperme, elles se disent qu'il l'a joui, parce qu'encore une fois, c'est une erreur de penser que toute éjaculation est l'expression d'une jouissance réelle, puissante, etc. Mais souvent, trop préoccupées par elles, elles ne sont pas très à identifier les valeurs de plaisir qui sont chez l'homme. Donc, mais le fait d'entendre qu'ils ronronnent, qu'ils ont des spasmes...
Il y a des hommes qui ronronnent?
Enfin, je sais pas, moi, j'en ai... Évidemment,
c'est les Pokémon qui ronronnent, je crois, non? Ou c'est les bûcherons qui dorment, non?
Bon, enfin, je disais, c'était un terme poétique.
Ah, pardon, oui, c'est voilà. Moi, je ne suis pas très poétique.
Voilà, donc...
Plus rondonnant, mais...
Voilà, c'est ça. Bon,
on n'a pas le même style, c'est pas grave.
D'accord, donc le fait qu'ils hurlent, crient, vocifèrent, etc., évidemment, ça a le mérite d'être très clair. Mais...
C'est une forme de timidité sexuelle chez les hommes, ça, de ne
oui,
pas faire de bruit?
C'est une sorte de pudeur, c'est une difficulté de s'exprimer. Ils sont beaucoup dans le contrôle aussi, les hommes.
Parce qu'ils sont très concentrés aussi, peut-être, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bruit.
Peut-être concentré, mais en tout cas très contrôlant. Et donc, contrôlant de tout ce qui se joue et de tout ce qu'ils font à cette femme, très observateur de ce qui se passe pour elle et parfois trop peu à l'écoute et dans la réceptivité de ce qui se joue pour eux. Du coup, ils se limitent dans leur plaisir.
Jimmy ?
Est-ce que Ophélie doit dire à son compagnon, justement, de lâcher un peu prise et peut-être d'y aller, de crier s'il en a envie, ou elle doit juste se contenter de ça, parce que si ça se passe bien, après tout... Pourquoi en rajouter?
Je pense que sans que ce soit un truc qui soit une tempête sous un crâne entre eux, on peut dire, dis donc, tu le gardes pour toi ton plaisir, ou c'était bon comment? Vous voyez, on peut aussi jouer avec l'autre puisqu'il le ferait lui, très certainement. Après, si ce couple est organisé autour de chacun à son plaisir, mais personne n'en dit rien, évidemment, il risque de s'enfermer au bout d'un moment dans un silence qui n'est certainement pas, d'ailleurs pas que dans la sexualité, certainement sur d'autres sujets dans leur couple par ailleurs.
Mais qu'elle lui pose des questions, finalement, c'est tout aussi pendant l'acte, c'est vraiment possible.
Tu fais ton timide, mais on peut le faire aussi par plaisanterie,
c'est
en disant arrête de faire ton timide, oh allez, lâche-toi.
Mais s'il n'a pas envie, elle ne peut pas le forcer non plus. Hein.
Mais non, ouais. Et puis peut-être qu'en effet, c'est un peu silencieux de son plaisir, que c'est agréable, mais sans plus, et que ça ne mérite pas autre chose. C'est-à-dire que c'est exactement comme vous jouez au tennis, puisque vous parliez des joueuses de tennis. Vous jouez au tennis, ben, vous pouvez taper dans la balle sans émettre le moindre son et même le moindre souffle.
Parce que je n'y mets pas beaucoup d'efforts non plus.
Voilà, parce que vous n'y mettez pas beaucoup d'efforts. Mais dès lors que vous mettez de l'effort, pour avoir beaucoup plus de puissance, inévitablement, vous allez aider par tout. C'est comme dans les arts martiaux. vous allez donner de la puissance à votre ressenti, à la puissance, à votre force, par le biais du souffle et du son. Donc assez naturellement, sauf si c'est un son travaillé, fabriqué, auquel cas ça n'a strictement aucun intérêt, ça c'est pour la galerie, mais juste laisser venir ce qui s'annonce, ce qui donnera plus d'ampleur au plaisir masculin comme féminin d'ailleurs.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux, comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous pour l'équipe sauvage en public aujourd'hui. Bon, avec un invité, on va pas se mentir, pas folichon. C'est pas le mec le plus drôle du monde, il est pas hyper connu. Kad Merad sera avec nous tout à l'heure. Kad qui visiblement a hâte.
Je suis déjà tout dur.
Nous aussi.
Ouah, ça promet Mathieu, évidemment on va écouter ça avec le docteur Jimmy Mohamed, c'est promis. Et vous, restez sur Europe 1. Hein.